Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Il y a un an, Monseigneur Guy de Kerimel procédait au jumelage du diocèse de Toulouse avec celui de Jbel Biblos dans le nord du Liban. Quels sont les fruits de ce rapprochement ? Le jumelage des diocèses de Toulouse et de Jbel Biblos, un an après, c'est le point que nous faisons aujourd'hui avec le père Tanios Teich, qui est prêtre maronite et curé de la mission maronite à Toulouse. Il est en route pour cette émission, nous allons l'accueillir tout à l'heure. Également en plateau, Muriel Itzak, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du comité de jumelage avec votre mari Robert Itzak, retenu, qui va partir au Liban incessamment. Oui. Joseph Kosefi et Pio Naman, on dit d'ailleurs, vous êtes tous deux séminaristes libanais. Vous êtes actuellement en stage au service communication du diocèse de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission, on va dire, premier bilan de ce jumelage de nos deux diocèses. Muriel Itzak, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui était prévu au départ quand vous avez mis sur place ce jumelage, vous qui faites partie du comité de jumelage, oui. Quelle a été l'intuition de départ et qu'est-ce que vous vouliez faire en fait ?
Alors, ce qu'on peut dire, le mot qui résume le jumelage, c'est échange. Alors, échange de prêtres, de séminaristes, échange de culturels, échange donc donc ce qu'on a fait au départ, il y a le séminariste Grégoire Boyer qui est allé depuis septembre au Liban, à Jbel. Dans l'échange culturel, nous avons pensé aussi à un échange de l'enseignement catholique.
Mais pourquoi vous avez voulu faire tout ça? Avant de voir les déclinaisons, oui, de tout ce que vous vouliez faire et ce que vous avez fait et pas fait, pourquoi vous avez voulu jumeler ces deux diocèses spécifiquement?
Alors, le jumelage a été décidé par les deux évêques, donc l'évêque maronite de Biblos, Monseigneur Michel Aoun, et l'archevêque de Toulouse. Et donc, ils ont voulu ce jumelage pour renforcer les liens qui étaient déjà très forts entre la France et le Liban. Et donc, oui.
On peut préciser qu'il y a de nombreux Libanais
qui vivent à Toulouse,
oui. Et que Monseigneur Guy de Kerimel est allé passer un court séjour au Liban.
Oui, alors au départ, il y a eu le Monseigneur Michel Aoun qui est venu en premier visiter Toulouse. Donc, il a vu Toulouse en premier. Puis, il y a eu le Monseigneur de Kerimel en 2024, je pense, qui a passé une semaine au Liban. Et donc, ces deux visites ont créé cette envie de faire ce jumelage entre les deux diocèses. Et... voilà, donc
vous parliez d'échange, voilà ce mot qui est vraiment l'essence même
lien,
de ce partenariat, enfin de ce jumelage, on va dire. Jumelage. Donc échange de prêtres et de séminaristes. Vous avez parlé de Grégoire Boyer qui est déjà arrivé depuis un an. Il a fait l'année scolaire en fait.
L'année scolaire. Oui.
Et vous, Pio et Joseph, vous êtes justement l'autre partie de l'échange puisque vous êtes en France aujourd'hui. Vous avez vu Grégoire au Liban. Joseph, vous êtes dans la même paroisse que lui. Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce que vous avez appris en le connaissant, en échangeant avec lui?
Alors, puisqu'on a servi Grégoire et moi dans la même paroisse, on a eu quasiment le temps de faire cet échange, de partager, que ce soit au niveau culturel, au niveau spirituel, en tant que deux frères séminaristes, on a vécu, on peut dire, une fraternité sacerdotale, si je pourrais le dire. Donc, en se découvrant, en le faisant découvrir le patrimoine libanais maronite, et en prenant aussi de lui ce qu'on pourrait connaître de la France, et surtout de Toulouse, la ville rose, et du rite latin catholique. Alors, on a pu faire cet échange. Et ce qui était impressionnant, en le faisant découvrir notre patrimoine et même le faire contempler en faisant des visites à des lieux culturels et spirituels, que ce soit à Jbeil, que ce soit, par exemple, on est allé à la Bekaa, à la vallée Kadisha, et plein d'autres lieux. Ça aussi m'a rendu compte que je découvre plus mon patrimoine, et je me rattache encore plus. Donc on découvre son patrimoine le mieux en faisant autrui le découvrir. Et ça le rend que ce n'est plus seulement un héritage acquis, mais quelque chose que je suis en tant que Libanais en premier lieu, en tant que chrétien, et puis en tant que séminariste qui discerne sa vocation, je suis responsable de le transmettre à chacun, à tout le monde. Donc, ce partage qu'on avait pu le faire m'a rendu un peu plus ouvert à autrui, ce que Jésus-Christ nous enseigne et nous appelle à toujours ouvert et accueillir tout le monde. Et je pourrais aussi parler un peu de mon expérience avec Grégoire, puisqu'on a aussi fait des visites à des familles libanaises qui ont été vraiment accueillantes, d'avoir un Français en premier lieu et puis un séminariste. Donc on a pu voir l'autre côté de l'église. Et donc, en tant que maronite, on ne voit pas beaucoup peut-être cet échange religieux. Alors, en accueillant une autre culture et une autre religion, ça a rendu les Libanais plus accueillants, plus curieux de savoir comment l'Église vit, à Toulouse surtout. La présence d'un séminariste toulousain à Jbeil surtout, c'était un message de paix et de joie, surtout avec un peu la situation qu'on vivait.
Oui, bien sûr, parce qu'évidemment, on ne peut pas édulcorer et oublier toute la situation dans laquelle le Liban est actuellement, avec... À l'heure où on se parle des bombardements qui ont cessé, mais voilà, on reste extrêmement prudent. Pour vous, Pio, donc vous êtes, pardon, j'ai pas dit, vous êtes en troisième année, donc Joseph, vous êtes en deuxième année du séminaire, donc à Jbeil, enfin à côté, dans le centre du Liban.
Oui, mais du diocèse de Jbeil aussi.
Voilà, du diocèse de Jbeil. Et vous, Pio, vous êtes en troisième année.
Oui.
Est-ce que vous avez croisé ce séminariste français, Grégoire ?
Oui, bien oui. sûr. Lorsqu'on était... Dans notre sortie au séminaire, on croisait Grégoire, mais c'était Joseph le plus. On partait dans des visites, peut-être dans des dîners de fraternité pour le rencontrer, pour le savoir plus. J'aimerais bien dire, ouvrir entre parenthèses, que Grégoire, c'était vraiment une personne exceptionnelle. Une chose que peut-être Joseph n'a pas mentionné, que Grégoire a appris rapidement la langue arabe, donc il a commencé à parler l'arabe, le libanais, et à chanter dans l'église. Donc vraiment, c'est une personne exceptionnelle.
Qu'est-ce que vous avez appris en discutant avec lui et en confrontant le rite maronite et le rite catholique français, on va dire? Qu'est-ce que vous avez appris de chacun, enfin là, de l'autre rite et comment l'un peut peut-être enrichir l'autre.
L'une des différences qu'on pourrait vivre en tant que séminariste, par exemple que chez nous, les séminaristes, surtout donc après avoir été ordonné sous-diacre, ce qui n'est pas le cas dans l'Église catholique latine. On a le choix de discerner aussi la vocation du mariage. Donc, on peut se marier ou non, ce qui n'est pas le cas avec Grégoire. Donc, c'était aussi un message qu'on a pu prendre de lui. Donc, l'idée du célibat, comment on pourrait consacrer toute sa vie au Christ, à la mission de l'Église et être père ouvert à tout le monde. Donc, c'est une des choses qu'on a pu faire. Discuter ensemble et ensuite comment on vit au séminaire, le partage de la vie spirituelle et comment chacun peut être vraiment un père
pour les chrétiens qui sont croyants
et même comment on pourrait aller au-delà des frontières de l'Église et des portes, des murs de l'Église.
Oui, comment on peut être missionnaire,
missionnaire
en fait.
Partout. Et ce qu'on a vraiment vécu avec Grégoire, puisque il est maintenant connu au diocèse plus que nous.
Ah. Alors là, il va falloir ne pas se faire oublier quand vous allez rentrer. Hein.
Non. Ça, c'est pour dire qu'il a vraiment... sa présence était vraiment une présence
marquante.
Remarquable.
Mmh, oui. Pio, qu'est-ce que vous avez découvert de cet autre rite que vous ne connaissiez pas a priori?
Une autre idée du rite ou de l'Église latine, c'est que entre les deux, entre les années de philosophie et l'année de théologie, il y a cette année de mission. Donc cette chose n'existe pas chez nous. Mais je pense que cela est vraiment important pour le séminariste, pour en premier faire une petite pause entre ces deux cycles et pour faire plus d'expériences. Et même Grégoire a eu la chance de plus de faire cette mission, cette expérience chez nous au Liban. Donc cette chose, je pense que je souhaite que peut-être cette idée va être intégrée dans notre rite ou dans notre église.
Dans votre cursus, oui, c'est ça, pour que vous puissiez partir. Parce que là, vous n'êtes à Toulouse que pour un mois. Vous êtes donc en stage, si on peut dire, dans le service communication du diocèse de Toulouse. Quelles sont les missions qui vous ont été confiées, Pio?
Notre mission à la maison diocésaine est précisément au centre de service de communication. Premièrement, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est de voir comment la communication est considérée ici comme un véritable outil au service de la mission de l'Église, précisément. Et il ne s'agit pas seulement d'informer, mais c'est aussi de créer un lien, de faire connaître les initiatives pastorales, de valoriser l'engagement des bénévoles précisément, et de mettre aux personnes de sentir membre d'une même communauté. Donc, dans mon stage, durant ces deux semaines jusqu'à maintenant, j'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs choses. Des choses concrètement que j'ai, moi et Joseph, qu'on a fait. Premièrement, comment fonctionnent les choses au service diocésain de communication, comment gérer, comment préparer un contenu. Comment transmettre une information de manière professionnelle et comment utiliser les différents médias au service de l'Église, des médias de l'Église. Et ce qui a été très enrichissant, c'est que nous avons pas seulement peut-être entendre ou voir, mais on a aussi travaillé avec l'équipe. Donc nous avons aussi participé à plusieurs projets, notamment dans la réalisation des vidéos et des créations de contenu graphique jusqu'à maintenant. Donc cela nous a permis de vivre une véritable immersion dans le quotidien du service de communication.
Oui, c'était très concret. Oui.
Et de travailler concrètement aux côtés de l'équipe. Donc ici, j'aimerais bien remercier l'équipe, en commençant par Anne-Charlotte, par Audrey, par Valérie, par Jonas et par François.
Oui.
C'est l'équipe de communication.
Qui vous a accueilli à bras ouverts, on l'entend en tout cas.
C'est une équipe extraordinaire.
Oui.
Donc,
Joseph, dans cette expérience au service de la communication du diocèse, est-ce que c'est quelque chose que vous avez complètement découvert? Est-ce que vous fonctionnez pareil au Liban?
Alors, puisque je suis à la base de communication, donc j'avais eu ma licence en communication et art visuel, et donc c'était un peu mon domaine. Et puisque Pio et moi, on travaille déjà la communication, surtout au séminaire, donc ça a été donc le déclencheur que notre évêque qui a donc lors de sa visite à Toulouse il a été façonné par le service de communication dans lequel travaille le diocèse de Toulouse, et ce qui l'a incité donc à encourager donc des séminaristes à venir faire cette expérience. Donc, Don Pio et moi, nous sommes venus et peut-être d'autres viendront même voir cette expérience en tant que prêtre ou même que jeune. On ne peut pas être aujourd'hui, l'Église ne peut pas être loin des réseaux sociaux et du monde digital et le monde de l'IA.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, donc, nous sommes en train de travailler, comme ADP, au niveau technique et même au niveau pratique. Mais aussi, donc, nous voyons aussi l'organisation, le management des choses, comment se fait, le pourquoi, et comment l'Église pourrait transmettre une image, pour dire, sans filtre, si on peut dire. Aujourd'hui, donc, le monde des réseaux sociaux donc, court un peu vers les filtres, on fake les choses, donc, pour paraître. Le paraître, c'est, ça diffère des choses qu'elle est concrètement. Alors que l'Église a un rôle de dire la vérité, de transmettre la vérité, une bonne image qui est la réalité. C'est notre mission en tant que communicants dans l'Église, d'être vrai sur les réseaux sociaux où tout le monde s'échappe de la réalité.
Oui, et puis cherche le sensationnel pour faire du buzz, tout simplement. Est-ce que dans le contexte géopolitique qui est celui du Liban actuellement, est-ce que cette expérience d'échange de séminaristes, elle peut perdurer ou même elle peut s'amplifier avec encore plus d'échanges entre les séminaristes, Myriel Itzhak, à votre avis?
Oui, certainement. Il y aura certainement un échange d'autres séminaristes. Et puis, ça prouve, avec cet échange, ce qu'ont dit Pio et Joseph, que l'universalité de l'Église, l'universalité du message de l'Église, et avec toutes les facettes et les facettes de chaque pays et de chaque essai, c'est très, très intéressant. De voir comment des séminaristes maronites ont perçu la venue du séminariste français chez eux. C'est cette beauté de l'universalité de l'Église.
Vous êtes Muriel Itzhak avec votre mari. Robert, vous habitez Toulouse.
Alors moi, j'habite Toulouse. Mon mari va et travaille au Liban et
il fait
des allers-retours.
Et vous suivez le rite maronite à Toulouse?
Exactement. D'accord. On suit le rite maronite à Toulouse, mais aussi on va dans les paroisses. On a aussi la paroisse de notre village, donc où on va aussi très souvent parce que entre maronite et Église catholique, il n'y a pas de différence.
Oui, elles sont sœurs.
Dans ce sens-là. Oui. Et donc, on est ancré aussi dans la paroisse de notre village.
Et même question qu'à Pio et Joseph. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez de particulièrement intéressant ou remarquable dans chacun de ces deux rites? Comment ils s'enrichissent l'un l'autre pour vous, pour votre foi?
Alors, moi, je trouve que les deux rites sont très proches dans la. C'est vrai que il y a beaucoup de points communs. Enfin, c'est des catholiques, les maronites.
Oui, bien sûr.
Et on n'a eu aucune difficulté à venir en France et vivre notre catholicisme ici en France. On n'a pas trouvé on a été accueillis par les il n'y avait pas de paroisse maronite à Toulouse, et donc on a été accueillis par les
donc
paroisses
dans la paroisse de votre village,
de notre village. Avant, on était à Toulouse, on était à la paroisse du Christ-Roi, et donc c'était pour nous, il n'y avait pas de différence malgré les différences culturelles, évidemment. Mais donc, on n'a eu aucune difficulté à s'intégrer dans cette communauté catholique de Toulouse.
D'accord. Une dernière question avant qu'on marque une pause musicale. Le rite maronite qui est donc proposé dans la paroisse maronite de Toulouse, c'est en français ou c'est en arabe?
Non, alors c'est dans les deux langues.
Dans les deux langues.
Alors, une partie en en libanais mm-hmm. et une autre partie en français, parce qu'il y a toujours sur l'écran la traduction ah oui. en français pour les enfants qui ne comprennent pas, ou bien pour les couples qui viennent, les familles qui viennent et qui ne comprennent pas le libanais. Donc ouais. Il y a les deux.
D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose, une dernière chose sur justement ce rite et comment il s'enrichit, c'est ce que ça vous apporte ?
Alors, avec la venue du Père Tanios ici à Toulouse, il y a eu beaucoup de liens qui ont été créés entre donc c'est l'église enfin l'église maronite et l'église catholique ici
en Haute-Garonne.
À Toulouse voilà et
Donc, vous bénéficiez de ces liens et
voilà.
Et en tout cas, on entend que vous êtes heureuse de bénéficier de ces liens et d'être témoin de l'universalité de l'Église.
De l'universalité de l'Église,
d'accord.
Exactement.
Alors, je vous propose de marquer une pause musicale. Muriel Itzak, Joseph Kosefi et Pio Naman. Nous écoutons un chant maronite à la Vierge Marie. Il est en français. Elle est pureté et beauté.
هي في الحب جمال هي قرب دوما والقلب سهرا هي من جود إلهي لا ولا شيء يضاهي ما أراد الله أن يعطي الإنسان هي قرب وجمال هي في الحب
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Nous écoutions un chant à la Vierge Marie et comme me le fait remarquer Joseph Kosefi, ça n'est pas un chant maronite. Attention et pardon pour cette erreur. Nous sommes donc de retour dans cette émission Vivante Église avec Muriel Itzak, Joseph Kosefi, Pio Naaman et le Père Tanios Tej que nous espérons toujours à propos de cette première année du jumelage du diocèse de Jbeil Biblos au Liban et avec le diocèse de Toulouse. Vous nous avez parlé au début de cette émission de cet échange entre séminaristes, puisqu'il y a un séminariste, Grégoire Boyer, du diocèse de Toulouse, qui passe l'année au Liban. Et puis vous, Pio et Joseph, vous avez été envoyés au diocèse de Toulouse pour un mois pour travailler au service de la communication du diocèse. Vous avez donc expliqué ce que vous faisiez. Peut-être un mot sur la situation au Liban aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe et comment vous la vivez, vous, Pio, qui êtes de Beyrouth?
Oui, vraiment, j'habite à Beyrouth, mais je suis de Biblos, vu que mes parents travaillaient à Beyrouth. La situation où j'habite est presque calme. On entend parfois les bombardements, toujours les drones qui sont toujours autour de...
Au-dessus de vos têtes.
Oui, au-dessus de nos têtes. Et surtout les soirs. Donc, ça... On peut pas dormir souvent les nuits. Mais et aussi... je vais parler dans ma situation pour le transport qui est un peu difficile, surtout lorsqu'on a un peu parfois des sorties au séminaire, on a la difficulté parfois de rentrer chez nos parents. Donc la situation est beaucoup difficile, mais grâce à Dieu qu'on peut survivre autant que possible, et prière de nos parents. Toujours, je dis que les prières de nos parents, de nos prêtres, surtout le Liban, est vraiment une terre sainte. Il y a une main qui travaille, toujours, et c'est elle qui nous sauve.
Vous disiez, Joseph, que des séminaristes avaient de la famille, justement, dans le sud du Liban. Comment sont-ils impactés par cette situation?
Oui, alors même si notre séminaire est à Razir, donc c'est un peu loin donc des bombardements, et notre diocèse aussi un peu loin, mais on peut pas être indifférent de la situation de tous les Libanais sans distinction, et des chrétiens qui sont au sud, dont donc les parents et des séminaristes et des prêtres qui sont donc au séminaire. Alors ils sont bien affectés, donc ça n'était pas beaucoup à l'aise pour eux de continuer leur formation toujours au séminaire, et toutes leurs pensées sont avec leurs parents. Il y a des paroisses donc, ou des villages. Les prêtres des paroisses ont pris des initiatives qu'ils ne quittent pas leur territoire, même s'ils on a coupé tous les liens avec eux. Donc c'est grâce à des prêtres que des villages ont pu
continuer de vivre.
Avec tout ce qui se passait à côté d'eux. Même il y a un prêtre qui est, on peut dire, martyr de sa foi et de son attachement au patrimoine, à son terre, à cause donc de toute cette situation. Alors, même si on était loin géographiquement, mais toutes nos pensées étaient donc avec les parents qui sont au sud. Et même notre formation donc était un peu hésitait, donc il y a demain université où il n'y a pas cours, et même si on prend les cours, mais on sait jamais qu'est-ce qui pourrait y arriver.
Oui, il y a toujours cette part d'imprévu.
Oui.
Muriel Itzak, dans ce jumelage des diocèses, il y avait un autre échange qui était prévu, hein, outre celui des séminaristes. Il y avait un échange entre les établissements catholiques. De quoi s'agit-il?
Alors, durant la semaine du jumelage, lors de la visite de Monseigneur Aoun, il a rencontré les responsables de l'enseignement catholique à Toulouse. Et donc, il y a eu cette volonté de faire une première visite cette délégation de l'enseignement catholique à Toulouse à Biblos. Donc, il avait été décidé de le faire en février. 2026, mais le calendrier n'était pas très... En fait, à Byblos, ce n'était pas possible pour l'enseignement catholique à Byblos. Et donc, ils ont reporté ça pour avril 2026. Et là, vu qu'il y a eu la guerre au Liban, donc ça a été annulé pour le moment. Donc annulé, mais on attend toujours une nouvelle date de visite. Donc cet échange, on l'espère très fructueux, parce que vous savez, au Liban, on parle français, on enseigne le français, et donc il y a beaucoup de congrégations qui ont des écoles donc catholiques au Liban, et donc cet échange était très très attendu. Et donc la délégation était donc de l'enseignement catholique à Toulouse était très très intéressée par cet échange. On ne sait pas encore de quoi, parce qu'ils attendaient leur on espère que...
Parce qu'en fait, il faut une première visite pour déterminer quels sont les besoins.
Les besoins et des uns et des autres, que ce soit aussi un échange...
Oui, bilatéral.
Bilatéral, exactement.
Oui, d'accord. Voilà. Donc cet échange, il est pour l'instant à l'arrêt à cause de la guerre au Liban, mais évidemment, il n'est pas abandonné.
Pas du tout.
Et voilà, oui. c'est quelque chose qui se fera. Autre volet de ce jumelage entre les deux diocèses, de Toulouse et de Byblos, de Jebel Byblos, il y a l'aspect... de soutien financier.
Oui.
Comment ça s'est matérialisé ?
Alors, l'évêque, vu la situation actuelle du Liban, donc le diocèse de Jebel a accueilli donc beaucoup de réfugiés du sud du Liban, des réfugiés chrétiens et autres. Il a demandé au diocèse de Toulouse de faire un appel aux dons, parce que non seulement ils ont accueilli des réfugiés à Byblos, mais aussi ils devaient envoyer du matériel, des denrées alimentaires à ceux qui sont, comme l'a expliqué Joseph, à ceux qui sont restés dans les villages, et donc, pour acheminer tout ça, c'était très difficile. Les camions n'y arrivaient pas. Et donc, on avait besoin aussi d'argent pour soutenir ça. Et donc, l'archevêché ici, donc le diocèse de Toulouse, a fait un appel aux dons. Et 10 000 euros ont été envoyés, il y a quelques jours, au diocèse de Byblos. Donc, en soutien à ces Libanais.
Espérer que maintenant cette somme de 10 000 euros qui va être transformée en denrées, en eau et en aide matérielle, oui, va arriver à destination. Parce qu'il y a toujours aussi des difficultés à acheminer, en fait, toutes ces denrées.
Ah oui, c'est ça. Mmh. Au fait, la difficulté, c'est d'arriver à ces villages qui sont presque coupés du monde. Et ça, c'est parce qu'il y a des villages qui sont maintenant sous occupation israélienne. Donc, pour y arriver, c'est difficile. Donc, je pense que Joseph, Pio le savent très bien et l'ont vécu aussi au jour le jour. Donc la communication aussi était difficile, tout était difficile.
Et en fait, quand vous êtes en lien, Pio et Joseph, avec un village qui est isolé comme ça, avec, comme vous nous disiez, Joseph, le prêtre qui reste dans ce village pour être aux côtés des villageois, est-ce que vous arrivez à communiquer justement avec eux, ou est-ce que c'est compliqué ?
S'il n'y a pas de coupure d'électricité ou coupure de réseau, il y a des communications qui se font. Mais c'est un peu fragile la situation.
Oui, c'est ça.
Avec tout l'état d'esprit. Est-ce
que vous osez, ou en tout cas, est-ce que les populations qui sont dans les villages osent dire les choses telles qu'elles sont ? Vous avez commencé cette émission en parlant de la vérité, en parlant de la communication, disons, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que la communication et les informations qui passent sont vrais, ou est-ce qu'il y a une partie qui est cachée ?
Donc, sur les médias, les prêtres qui ont pu vraiment tenir, et ils ont osé dire la vérité et parler, s'adresser aux politiciens et à tous ceux qui sont concernés par la situation. Donc, ils l'ont dit donc leurs mots devant tout le monde, devant les réseaux sociaux, devant les médias. Donc, pour dire qu'on ne quitte pas notre terrain. Et il faut que vous bougez, que vous faites quelque chose. On ne quitte pas notre terrain pour quiconque vient et...
Voilà, donc l'information est passée et elle n'a pas été déformée. Oui. D'accord. On va terminer notre émission avec cette vénération des reliques de Saint Ravka. C'est prévu dimanche 28 juin. Alors, nous, les Français que nous sommes, nous connaissons Saint Charbel, le saint du Liban. Mais alors, je vous avoue que Saint Ravka, ça a été une grande découverte. Qui d'entre vous pourrait nous présenter qui est cette sainte ? Pio ?
Donc, c'est une religieuse maronite. De l'ordre maronite libanaise, oui. Elle est née à Himalaya, elle est grandi, puis elle est entrée le couvent. Elle a dû aider au service du couvent. Elle était une religieuse très très calme, elle ne parlait pas beaucoup. Et ces dernières années, elle a dû beaucoup de souffrances. Elle a été aveugle. Donc, il y a une histoire, où c'est une vraie histoire, que le jour de l'Eucharistie, jeudi de l'Eucharistie, elle ne pouvait pas marcher pour aller à la messe. Donc, c'était un miracle que lors de la messe, ses sœurs les ont vues qu'elle a marché dans le sol pour arriver à la messe. Donc, pour pouvoir faire cette rencontre avec Jésus-Christ. Et elle est mourue après quelques années. Et je pense que Jean-Paul II l'a canonisé en 2003, je pense, 2004.
Et elle a vécu à quelle époque, cette Sainte Ravka ? Personne ne sait.
Le 19e siècle.
Au 19e siècle. Oui.
Donc, elle est un signe. Donc, c'est elle qui avait demandé donc, un signe au Dieu pour qu'elle partage avec lui la souffrance. Et ce qui est arrivé avec elle, c'était une faute de médecin. Donc, par faute, il a enlevé son œil, et puis elle a perdu la vision de ses deux yeux. Et elle est alors connue, et donc pour, donc, comment dire, en rabbita, comme un chien attaque, donc pour que ta volonté soit faite. Donc, elle s'est abandonnée complètement au bon Dieu, et donc elle a supporté toute sa souffrance avec joie. Donc, elle est toujours souriante. Elle est connue par les sœurs qui ont vécu avec elle, qu'elle a vécu paisiblement, donc sans plainte. Donc, c'est ce qui la caractérise le plus. Donc, et puisque alors, ces reliques seront donc à l'église de Christ le Roi le dimanche prochain.
Oui, à 18h15.
Donc, tout le monde est invité de prendre leur pétale et d'accueillir la Sainte Ravka. Et on ne peut pas aussi nier que Pio et moi, donc, nous sommes aussi rattachés à Sainte Ravka, puisqu'elle a vécu au séminaire. Elle avait servi au séminaire de Razir, donc, où les prêtres sont en train de se former, pour 7 ans. Et au juillet prochain, l'église maronite va béatifier le patriarche Yeslah Wayek, donc, que Sainte Ravka l'avait servi lors de son parcours au séminaire. Donc, c'est une invitation d'invoquer Saint Ravka, surtout le dimanche. Donc, on vous attend.
Et puis, après la vénération des reliques de Saint Ravka, il y aura donc la messe maronite à 18h30, la procession de la relique, et puis évidemment un moment convivial. Voilà, c'est un temps qui est vraiment avec la communauté libanaise de Toulouse, et puis beaucoup plus, qui est vraiment ouvert, comme vous disiez, Muriel, Muriel Itzak, pour montrer l'universalité de l'Église, et que tous se réjouissent et soutiennent aussi par leurs prières le peuple libanais qui est si durement éprouvé.
Et il y a en plus.
Rapprochez-vous
oui,
du micro.
Alors, en plus de la vénération des reliques, dans cet échange avec ce jumelage, il y a aussi une recherche de chapelle dédiée à Saint-Charbel. Donc,
une chapelle dans le diocèse de Toulouse ?
Dans le diocèse de Toulouse.
À Vio.
On essaie de trouver une chapelle dans une des églises de Toulouse qui sera dédiée
à Saint-Charbel. Voilà. Bah, écoutez, à bon entendeur, salut. Oui. Merci beaucoup, Muriel Itzak. Merci, Joseph Koussefi et Pio Naman. Et puis, malheureusement, nous avons regretté le père Tanios Bech qui n'a pas pu nous rejoindre. Vous avez dressé le bilan de la première année du jumelage entre les diocèses de Biblos et Toulouse. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.